Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale du Défi sportif Altargo 2026. Je suis Émilie Bouchard-Labonté, directrice générale adjointe à Altargo et je suis vraiment très heureuse de vous accompagner pour cette heure de discussion dédiée au sport, à l'inclusion, à l'innovation et surtout pour parler avec des personnes profondément inspirantes. Merci à Canal M, partenaire média du Défi sportif Altargo, de faire en sorte que cette aventure soit possible aujourd'hui pour nous. Le défi sportif Altargo, c'est bien plus qu'un événement sportif. C'est un mouvement, une communauté, un catalyseur de changement qui, depuis plus de 40 ans maintenant, transforme l'accès au sport pour les personnes en situation d'handicap. Aujourd'hui, on vous propose une plongée au cœur du défi sportif Altargo, des athlètes, des porte-paroles, des projets novateurs, des initiatives d'un océan à l'autre et bien sûr, tout ce qu'il ne faut pas manquer pour cette 43e édition du défi sportif Altargo qui est à nos portes. J'espère que vous êtes bien installés confortablement parce qu'on commence tout de suite. Et pour débuter cette émission spéciale, j'ai envie de donner la parole à deux athlètes ambassadrices du défi sportif Altargo qui représentent deux réalités différentes, mais probablement très complémentaires, puisque pour le défi sportif Altargo, c'est à la fois pour la relève et pour l'élite. Et j'ai donc le grand plaisir d'accueillir Alison Levine, athlète internationale en boccia. Bonjour Alison.
Bonjour.
Et Chloé Pellin-Lambert qui représente le volet scolaire. Allô Chloé.
Bonjour.
Chloé, tu vas participer au volet scolaire du défi sportif Altargo, mais tu y participes depuis plusieurs années. Tu es une jeune athlète non-voyante.
Oui, exactement.
Puis tu vas prendre cette année part aux compétitions d'athlétisme, c'est bien ça?
Exact.
Alison, tu es une athlète plus qu'accomplie. Tu as déjà fait de l'équitation, du basketball, du rugby en fauteuil roulant, mais tu es reconnue dernièrement, puis depuis plusieurs années, pour ta carrière en boccia sur la scène internationale.
Oui. C'est ça.
Ton palmarès, c'est vraiment impressionnant. Plusieurs médailles d'or, dont une au défi sportif Altargo il y a quelques années en Coupe du monde et trois participations aux Jeux paralympiques.
Oui, c'est ça.
J'aimerais ça le mentionner aussi, mais ton excellence comme ambassadrice du parasport en général, tu as reçu notre premier prix sport et communauté Maxime Gagnon qu'on a offert pour la première fois l'année dernière. Donc, félicitations.
Merci
pour cette passion puis ton engagement.
Merci beaucoup.
Donc, Alison, ma première question est pour toi. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours sportif en général?
En général, quand j'étais petite, j'étais très actif comme un jeune, mais j'ai jamais fait de sport organisé, genre Timbit soccer ou des choses comme ça. C'était pas à mon goût. C'était juste quand j'ai commencé les signes de mon maladie dégénérative vers 12 ans, que j'ai senti qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. J'ai senti que j'ai perdu contrôle de mon corps et j'ai voulu reprendre ce contrôle-là. Alors, j'ai commencé par faire l'équitation comme une forme de physiothérapie. Puis c'était pendant mes courses de faire ça que j'ai devenu amie avec la famille qui fait les séances de physiothérapie. Ils m'ont invité de faire des petites compétitions régionales contre des personnes sans handicap. On a même caché mon handicap parce que j'ai pas voulu être pitié par les vieux. J'ai avoir plus de points que les autres. Alors, c'était là où j'ai eu ma première goût de compétitionner, de gagner quelque chose, d'avoir une récompense pour quelque chose que tu travailles fort là-dessus. C'était, je pense que c'est le moment que mes yeux ont ouvert comme « Hey, c'est vraiment ce que je comprends maintenant. » Malheureusement, comme c'est un handicap dégénératif, il est devenu trop difficile et trop dangereux pour moi d'être assis sur un cheval. Alors, j'ai pris le choix d'essayer de trouver une autre chose à faire, puis j'ai trouvé le basketball en fauteuil roulant. J'ai joué avec le club de Montréal pendant 2-3 ans, je pense. J'ai même fait l'équipe féminine pour l'équipe Québec pendant un an. Et encore, quand j'étais plus capable, j'ai décidé de trouver un autre sport. J'ai tombé sur le rugby en fauteuil roulant, que à date, ça reste mon sport préféré. J'ai eu le plus de succès avec le boccia, mais le rugby... Oh, Stéphane, avec les collisions, l'agression, j'ai vraiment adoré ça. Puis, c'était à la fin de mon carrière quand même de rugby que j'ai pas connu le boccia. Je savais pas que c'était un sport. C'est pas un sport très connu. Comme c'est l'un des deux seuls sports paralympiques, ils ont pas un équivalent olympique. Des fois, c'est pas beaucoup dans les médias. Mais j'étais tellement chanceuse que j'ai fait la bénévole à un tournoi de rugby que mon coéquipier, Marco Di Peltro, a venu voir s'il y a peut-être des personnes qui seront éligibles pour le boccia. Puis j'étais un peu trop gênée, mais après une heure de lui regarder, j'étais allée essayer. Puis 3 mois plus tard, j'étais sur l'équipe Québec. 6 mois plus tard, championne canadienne. Puis, les 6 mois après, sur l'équipe nationale. Puis maintenant, 12 ans plus tard, 3 fois paralympienne, ouais.
Quelle carrière accomplie quand même, mais dans une diversité de sports. Là-dedans, t'es quoi ton premier point de contact avec le défi sportif Altergo?
Avec le défi sportif Altergo, je pense que c'était un tournoi de basket en fauteuil 2A. Que j'ai participé. Je me souviens bien, c'était mon première fois dans une atmosphère comme multisport adapté, puis je me semblais que c'était comme un mini paralympique, puis c'était vraiment cool, ça m'a vraiment touchée d'être acceptée dans cette nouvelle communauté.
Puis les premiers impacts que le défi sportif Altergo t'a apporté, est-ce que tu es capable d'en mentionner un en particulier?
Je dirais cet aspect communauté, de voir des différentes personnes dans différents stages de leur vie. J'étais un adolescent un vieil adolescent. Je pense que j'envisage d'y aller en collège bientôt. Alors, de voir des personnes qui sont le même âge que moi, des personnes qui ont des familles, qui travaillent, c'était comme le moment clé, je dirais, dans ma vie. Que ça donnait l'opportunité pour moi de voir qu'il existe un futur pour moi, un futur actif dans le futur pour moi.
Puis maintenant, cette année, on t'a demandé en fait de devenir une de nos athlètes ambassadrices.
Oui.
Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce titre-là, cette année?
Pour moi, je suis extrêmement fière. Je vous remercie beaucoup. Je sais qu'en 2020, c'était supposé d'être le cas,
oui.
Mais la pandémie est arrivée, mais c'est correct. Des bonnes choses arrivent pour des personnes qui s'attendent. Puis le défi sportif, pour moi, je me souviens quand j'ai commencé, je me souviens maintenant. Je sais ce que maintenant ça me donne. Extrêmement fière et excitée d'être capable de représenter cet événement qui est l'un des seuls au Canada comme ça, qui est juste incroyable.
Puis, je sais que tu m'avais déjà confié que Montréal, c'était quand même un arrêt attendu au sein de la communauté internationale de boccia. Pourquoi
ouais.
Montréal? Pourquoi cet arrêt-là est important dans votre calendrier?
Ah, bien, pour nous, c'est plus facile. On n'a pas besoin de voyager.
Évidemment.
Surtout, c'est un bénéfice pour nous. Mais quand même, je sais que tout le monde aime venir à Montréal. Comme c'est un ville... un hub, ville qui est facile d'y rendre, de l'Asie, l'Amérique du Sud. Il y en a beaucoup. La liste est toujours... Il y a toujours des monde sur les listes d'attente pour les défis sportifs. Tout le monde sait qu'ils vont venir ici. Le transport va être super. Les repas sont stables. L'hôtel est correct pour nous, adapté. Tout le monde, comme... On sait... C'est très important quand tu es un athlète de haut niveau de savoir en avance comme... Tous les petits détails qui peuvent niaiser quand tu es en compétition, tout le monde sait que le défi, ça va être un bon événement.
une vingtaine de pays, plus que 20 pays, en fait, seront présents pour ta Coupe du monde de World Boccia. Donc, c'est le retour après une absence l'année dernière.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses quand ils vont arriver à l'aéroport, ces délégations-là, le premier effet Montréal?
Je sais pas. J'espère que ça va être pas les nids de poules sur la route
en
qui
effet.
Vont faire une impression, là. Mais non, j'aime ça. C'est une source de fierté de comme... d'avoir des personnes dans ta ville, ta maison, comme c'est moi, j'habite ici, j'aimerais que des personnes peut-être prennent une journée d'autre pour voir les installations un peu, surtout si c'était l'été, ça aurait peut-être un peu plus belle, mais quand même j'espère qu'ils vont avoir l'essence de Montréal comme un petit ville peut-être européenne, vraiment un bon place à revenir pour pas juste le Boccia.
Oui, en effet, pour voir, découvrir la vaste programmation que le défi sportif Altago a chaque année.
Ouais. Et il n'y a rien de mieux d'être assis dans mon Lazy Boy chez moi quand je regarde genre l'équipe de Hong Kong qui commence leur voyage de 36 heures de venir à Montréal. Puis je suis là dans Lazy Boy avec mes chips. Il n'y a rien de mieux que ça.
Chacun son tour. Hein, parce que je pense que l'Asie est quand même une destination prisée pour quelques Coupes du monde. Donc,
cette année,
à l'inverse, eux, ils vont peut-être manger leurs chips dans leur Lazy Boy quand ils vont entendre que vous arriviez. On en a parlé rapidement, Alison, le défi sportif Altargo, tu l'as connu pas seulement en athlète de boccia, mais en basket, en rugby. Ça a fait partie de ta carrière sportive depuis très longtemps. Si tu te retournes en arrière, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune athlète qui pourrait participer à un premier défi sportif?
Je dirais juste de profiter de tout. C'est un événement spécial. On a beaucoup de services pour des athlètes. Utilise-les. Si tu es capable d'aller voir d'autres sports, d'autres disciplines, peut-être c'est pas celle que tu compétitionnes maintenant, mais peut-être comme moi, dans l'avenir, tu peux revenir. C'est vraiment fun. il faut juste profiter de ça.
J'arrête pas de parler de ta carrière accomplie sous tout plein de volets. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu peux inspirer cette relève-là, cette jeunesse-là, à peut-être devenir toi dans un futur proche ou moins proche?
Je pense que c'est deux choses. C'est ma responsabilité et mon responsabilité et mon... Oh, what's the word? My responsibility and my privilège. C'est mon responsabilité et mon privilège d'avoir ça. Parce que moi, je sais que le sport a complètement changé ma vie. Puis si je peux toucher quelqu'un, 10% de ça, que ça a un impact sur leur vie, c'est mon job fait. C'est un accomplissement. Quand je suis avec des jeunes ou même plus les jeunes filles qui ils ont juste entendu non, t'es pas capable ou non, c'est difficile ou non, de montrer que oui, te dire quelque chose, c'est de le dire, mais de le montrer, c'est là où on va apprendre. Alors, c'est vraiment mon responsabilité et pour moi, c'est la meilleure portion, c'est la meilleure partie d'être un athlète.
Chloé, je ne sais pas si tu trouves ça impressionnant, tout ce que Alison nous raconte depuis le début.
Ben oui!
toi, peux-tu nous expliquer, Chloé, comment tu as découvert le sport adapté, comment ça t'a amené au défi sportif Altargo?
Ben, c'est que moi, quand j'étais à mon entrée à l'école, j'ai suivi des cours d'éducation physique. Puis c'est là que eux autres m'ont appris comment faire le sport adapté. Puis c'est là qu'ils ont comme choisi de m'inscrire au défi sportif Altargo. Puis dans le fond, il y en a plein qui me disaient, justement, moi aussi, il y en a plein qui me disaient, comment tu vas faire pour aller là? Comment tu fais pour te rendre là? Mais c'est pas parce que j'ai un handicap visuel que je peux m'empêcher de vivre.
Ni faire de sport.
Parce que je suis des cours pour ça. Puis je suis formée pour ça, justement.
Puis le défi sportif Altargo, dans ton parcours d'école, tu es maintenant en secondaire 5, c'est bien ça? Est-ce que tu as participé au défi sportif à plusieurs éditions?
Oui, à chaque année, je le faisais.
Au primaire aussi ou juste au secondaire?
Primaire, secondaire. Bien là, ça a été interrompu justement avec la pandémie. Là.
Mm-hmm.
Mais je l'ai fait de mon primaire au secondaire.
Donc, dès ta première année, t'es venue nous voir au défi sportif Altargo?
Exactement.
Donc, une expérience assez vaste, même pour quelqu'un qui, comme tu fais dire, comment tu vas te faire pour te rendre là? Tu t'es facilement rendu là plusieurs années d'affilée, en tout cas.
Ben oui!
Puis, qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel de faire du sport puis de participer à des événements comme le défi sportif Altargo?
Bien, déjà, le sport, c'est quelque chose qui me permet de me défouler, là, vraiment. Puis c'est de la motivation.
Puis, est-ce que ça te permet, justement, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux sports?
Bien, ça, oui. Ça me permet aussi de développer des nouveaux... du vocabulaire sportif, là.
Et comment cette année, toi aussi, tu es une de nos athlètes ambassadrices. Comment tu te sens, le fait qu'on t'a demandé d'être athlète ambassadrice, surtout pour des jeunes comme toi, de porter ce titre-là?
Bien, moi, dans ce défi-là, je me sens bien. Parce que moi, en fait, comment c'est arrivé, c'est que l'an dernier, je suis allée au défi sportif.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, j'ai vu M. Gagnon, Maxime Gagnon,
qui est notre président directeur général à Altargo, en effet.
Exactement. Moi, j'ai vraiment demandé... Bonjour, M. Gagnon. Je me demande comment fonctionne l'ambassadrice athlète du défi sportif. Puis c'est là que je suis allée... parce que j'ai dit, j'aimerais ça l'être l'an prochain, étant cette année, là.
Mm-hmm.
Puis là, ben justement, je pense que je t'ai déjà rencontré là-bas, Émilie.
Exactement, parce que la règle, c'est moi qui décide ça à Altargo. C'est qui nos athlètes ambassadeurs et ambassadrices.
Ouais.
Et donc, Maxime est venu me voir et a fait...
C'est toi qui j'ai payé. Hein.
Exactement, c'est ça. Deux fois plutôt qu'une. mais exactement, il est venu me voir en disant, Émilie, j'ai une athlète à te proposer. J'espère que tu vas dire oui. Et le contact a été... le oui n'a pas très tardé à surgir parce que c'était juste à découvrir, te voir participer aux compétitions. Je m'étais dit oui, l'année prochaine, on s'entoure de femmes au défi sportif comme athlète ambassadrice. On a trois femmes d'ailleurs athlètes ambassadrices cette année au défi sportif. Mais non, j'étais très heureuse de te rencontrer cette fois-là et tu nous as marqué et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui aux côtés d'Alison.
Bien, merci. Puis ce qui m'a motivée à faire ça cette année, c'est que, v'là 2 ans, je sais pas si tu te souviens de Amy Poirier.
Oui.
Ben justement, Amy, elle l'a été.
Oui, en effet.
Pis ça avait l'air intéressant, donc je me disais, je vais me lancer ce défi-là cette année.
Oui, c'est Amy. Amy était athlète ambassadrice lors du 40e édition du défi sportif Altargo.
Elle avec les cheveux blonds. Hein?
Cheveux courts noirs à peu près. Une autre athlète non-voyante. Okay. La même école que Chloé. Vous allez à la même école, hein, c'est ça?
Exactement.
Oui, donc qui a participé aux épreuves d'athlétisme aussi au niveau scolaire. Donc oui, ça avait été une très belle découverte cette année-là aussi, Amy. On l'a dit, Chloé, tu termines ton secondaire cette année, donc c'est la dernière fois que tu as participé dans le volet scolaire du défi sportif Altargo. Est-ce que le sport va continuer de faire partie de ta vie par la suite?
Bien, c'est sûr que je suis pas très motivée à faire du sport parce que déjà, je suis pas active chez nous, là. Mais probablement là, que je vais m'acheter un vélo stationnaire ou... Un tapis roulant, j'aimerais peut-être s'investir pour ça à un moment donné.
Afin de continuer un peu, de continuer de la motivation que tu avais pour t'entraîner pour le défi sportif, mais le reproduire plus tard dans ta vie, dans ta vie adulte, qu'on va dire.
Exact.
Puis toi, comme ça fait partie de ta vie au primaire, au secondaire, que dirais-tu à un élève qui hésite à essayer le sport adapté, qui hésite à venir participer au défi sportif Altargo?
Bien, je lui dirais à cette personne-là que c'est pas parce que tu as un handicap quelconque, que ce soit handicap physique ou visuel, etc., que c'est pas parce que tu as ça que tu ne dois pas faire du sport. Au contraire, on peut adapter le sport à ta façon, à toi.
En effet, puis l'adaptation, je pense que c'est ça qui fait partie, qui est la beauté de la chose, c'est-à-dire que plus un sport est inaccessible, finalement, il est adapté selon ta limitation.
Non, c'est ça.
Peux-tu nous parler un peu des adaptations qu'on fait justement pour tes courses, tes épreuves en athlétisme là, qu'on fait au défi sportif Altargo?
C'est que, ben oui, c'est que moi, je cours avec une corde. Dans le fond, je tiens une corde avec un témoin. Ça, un témoin, c'est un petit tube de plastique que tu mets sur la corde, justement, puis je cours avec ça. Mais là, pour la course à l'extérieur, je vais courir avec une corde, puis il va avoir un accompagnateur avec moi.
Donc, il y a deux façons de le voir, soit avec un guide à l'extérieur ou bien avec une corde ou une aide à la course là, pour l'intérieur, pour ce qui est les courses.
Exactement.
Quand je suis curieuse, en natation, comment ça se passait? Comment ça fonctionnait?
En natation, j'avais justement un enseignant qui m'accompagnait. Puis c'est lui, dans le fond, qui me tenait la main. Je rentrais dans la piscine. Puis quand il donnait le signal de départ, ben je lâchais la main de mon enseignant, puis c'est là que je faisais mes longueurs aller-retour, dans le fond, là.
Puis pour toucher le mur, il n'y avait pas trop de difficultés? T'avais pas trop peur de te frapper la tête ou...
Non, parce que j'avais déjà eu mon enseignant en éducation physique qui m'avait montré comment... qui m'avait montré des techniques de nage.
OK. Donc, tu étais prête pour cette natation-là.
Oui.
Alison, tu es depuis longtemps au sein de la famille du défi sportif. Tu as participé à plusieurs épreuves, mais jamais au volet scolaire.
Non.
De voir que ce volet scolaire-là existe pour 5000 athlètes par année, est-ce que tu es un peu jalouse de ça?
Oui, c'est super cool.
C'est quoi ton point de vue comme athlète international qui n'est pas passé par le volet scolaire?
C'est vraiment cool. Moi, j'étais dans une école régulière. On dirait qu'on ne savait pas que j'ai eu un handicap avant vers 12 ans. Alors, pour moi, je n'ai pas eu des modèles. Je n'ai pas eu des personnes. Donc, pour moi, une personne handicapée, c'est des vieux qui sont dans des fauteuils roulants, d'être poussés dans les centres d'achat. C'est pas des personnes actives, c'est pas des paralympiennes. Je parle souvent de... j'ai réalisé que l'un de mes amis, Allison Lang, de volleyball, mm-hmm. assis, je réalise que quand j'étais à peu près 13, 14 ans, j'ai joué moi-même dans mon sous-sol avec ma sœur le volleyball assis parce que j'ai eu de misère à marcher, mais j'étais capable de marcher sur mes genoux avec un ballon. Puis j'ai réalisé comme 15 ans plus tard que j'aurais été éligible pour le volleyball assis. Alors, si j'ai eu les ressources, j'étais dans peut-être une école qui connaît le défi sportif ou j'étais un peu plus... mon dégénération a... arriver un peu plus vite, peut-être j'aurais eu la chance de commencer mon carrière mon carrière sportive plutôt que dans en 2007, j'ai eu 17 ans, alors quand même, là.
Ouais. Ouais, donc ça aurait pu arriver plus tôt, surtout que le défi de sportif Altargo existe depuis 1984, fait que ça aurait pu être facile de découvrir ouais. ça. C'est sûr que c'est pas la même promotion que présentement. Il y a plus de communication, il y a plus de réseaux, il y a plus de façons de partager les informations, de les faire communiquer qu'à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une belle richesse, je pense, d'avoir cette amplitude de volet scolaire ouais. dans le cadre du défi.
J'imagine que quand j'ai fini de jouer au rugby, je connais pas le boccia. je sais que si j'étais impliquée avant, probablement, j'aurais entendu le boccia avant que c'était mon tour.
Oui.
Ouais.
Mm. Chloé, après le défi sportif Altargo 2026, qui va être ton dernier, c'est quoi la suite pour toi, autant personnel que professionnel?
Ben moi, c'est sûr que j'aimerais prendre des cours de musique.
Un instrument particulier?
Drum.
Ah!
Oui.
Parce que, effectivement, oui. Puis sinon, je pense qu'avec tes stages là à l'école, tu découvres plein de choses.
Oui, puis ça risque peut-être de se transformer en emploi.
Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus, Chloé?
Oui, bien en fait, ça fait 3 ou 4 ans que je suis au stage. Ça s'appelle Les cuisiniers différents. Ça, c'est un service traiteur, dans le fond, qui va... servir des écoles qui, malheureusement, n'arrivent pas à se nourrir, avoir assez d'argent pour se nourrir. Puis moi, dans le fond, ben je portionne des collations. Là, c'est des collations qui arrivent des épiceries, des commerces. Là. Puis moi, je les emballe, je les portionne, puis c'est là qu'on prépare les écoles avec ça.
OK. Puis, dernière question peut-être avant qu'on termine. C'est quoi ce dont vous avez le plus hâte pour le défi sportif Altargo qui est dans très peu de temps maintenant? D'abord, toi, Chloé.
Ben moi, j'ai justement hâte de rentrer sur scène, de lire le serment de l'athlète.
À notre cérémonie d'ouverture.
À notre cérémonie d'ouverture, ben oui. Puis, parce que moi, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas participé aux cérémonies d'ouverture, étant donné que je suis au secondaire.
Mm-hmm. Donc là, ça va être un retour. Puis en plus, on commence en grand avec un serment. Effectivement, Chloé va être une de nos représentantes, une de nos athlètes qui va faire le serment d'athlète lors de nos cérémonies d'ouverture.
Exactement.
On est vraiment très fiers. Puis pour toi, Alison, c'est...
Ben, j'espère qu'après l'événement, je vais être capable de dire les 2 médailles d'or qu'on va gagner aux Coupes du monde. Mais non, pour moi, ça va être d'avoir beaucoup de famille et beaucoup des amis qui vont venir me voir. J'ai un nouveau partenaire de performance qui voyage avec moi, qui a commencé l'année passée. Puis son famille est tellement... Ils sont full impliqués maintenant dans le boccia. Ils ont le boccia fever. Alors, ils vont avoir beaucoup de monde qui aimerait venir me voir. Puis ça va être juste cette capacité de partager mon amour de boccia avec le monde. Ça va être spécial.
Et nous aussi, on sera du rendez-vous. On ne manquera pas vos performances pour... Tout l'heure du monde, on sera là à Alison. À court terme, effectivement, c'est la Coupe du monde en boccia, mais c'est quoi l'avenir pour toi là, dans la prochaine saison?
On a les championnats de monde cette année. Alors, on visionne 3 Coupes du monde, le championnat de monde. C'est une qualification déjà pour les Paralympiques. Pour moi, c'est toujours une année à la fois, une compétition à la fois. Tant que mon corps est... contente de continuer. Moi, si j'adore le sport, je vais continuer de jouer.
Je pense que tu savais que j'allais te poser cette question-là en disant, est-ce que des 4e Jeux paralympiques à Los Angeles, c'est dans la mire? Mais peut-être que oui, on verra, de ce que je comprends, on verra.
Si j'ai la chance, ouais.
Bien, merci beaucoup, les filles, d'avoir passé ce temps-là avec moi, des athlètes ambassadrices exceptionnelles. J'aimerais quand même souligner les 3 autres athlètes ambassadeurs qui complètent notre quintette cette année comme athlètes ambassadeurs. Donc, Héloïque Constantineau en para-hockey, Mélanie Labelle en rugby en fauteuil roulant, qu'on va avoir la chance d'accueillir un peu plus tard aujourd'hui dans le balado, et aussi Karl Marquis en curling en fauteuil roulant. Donc, des très belles personnalités, aussi belles que Chloé et Alison, que vous pouvez découvrir sur notre site Internet au défisportif.com. Donc, merci encore à vous deux. Être ambassadrice, être ambassadeur, c'est de faire rayonner un événement et une cause. Et justement, parlons maintenant de celles et ceux qui choisissent de la porter publiquement avec un de nos porte-parole, Jean-Marie Lapointe, qu'on accueille à l'instant. Merci encore, Alison. Merci, Chloé.
Merci.
Bon défi sportif.
Merci.
Alors, j'accueille maintenant l'un de nos porte-paroles du défi sportif Altargo qui nous choisit depuis maintenant 25 ans et il me l'a rappelé le pas plus, plus tard que la semaine dernière. Jean-Marie Lapointe, bonjour.
Bonjour, c'est ma boss. C'est ma boss, Émilie, la boss des coms.
Ah, de tout, je te dirais présentement.
Hein? Mais là, t'es comme, t'es VP et direction générale?
Je suis vraiment big. Ouais. Non, tout le monde mais... va écouter ça, vont croire.
Non, mais t'es directrice générale adjointe
directrice
aussi.
Directrice générale adjointe, je donne encore un coup de main aux communications et toutes ces tâches que j'adore beaucoup. Quand on a... Cool. J'ai pas 25 ans au sein du défi sportif Altargo, mais quand on embarque, je pense que t'en es le principal témoin, on embarque sur une moyenne coche.
Ah non, c'est fou. C'est tellement une belle famille, Altargo, là. Ah, oh, ça a tellement changé ma vie. Oh my God. C'est ça, ça a commencé en 2001. Je faisais des chroniques art et spectacle. Là, c'est bien meilleur le matin à Radio-Canada. Mais je connaissais déjà le défi sportif parce que juste avant, j'animais avec Éric Rémy, Les Fils à Papa, une émission culturelle, d'actualité, puis on touchait à tout. Puis à chaque année, on recevait Yvon Deschamps, Jean-Pierre Coallier ou Chantal Petitclerc comme porte-parole du défi sportif. Mais je connaissais pas ça. Je connaissais le concept du défi, mais j'y avais jamais été. Alors, quand on m'a à mon tour proposé d'être un des porte-parole en 2001, j'avais dit oui sans savoir dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée. Je connaissais un sport. Ben, on connaissait tout Chantal Petitclerc. On connaissait les sports paralympiques. On avait vu des athlètes, autant nos Québécois qui s'illustraient sur la scène internationale, mais comme le trois quarts de la population, il n'a jamais mis les pieds au défi sportif. Je faisais partie d'eux autres, moi aussi. Alors, il a fallu que je devienne porte-parole pour que je découvre c'est quoi ça. Le défi sportif.
Mais à ce moment-là, pourquoi avoir dit oui un peu aveuglément, si je comprends bien?
Bien, probablement inconsciemment, j'étais à un tournant dans ma vie, puis il y avait une voix à l'intérieur de moi qui voulait s'impliquer dans le bénévolat. Et j'avais déjà été initié dans d'autres sphères au niveau de l'accompagnement de fin de vie en soins PAL, avec la maison L'Éclaircie pour les troubles alimentaires ou les ados en thérapie au centre Le Grand Chemin. Puis à chaque fois que je bénévolais, ça me faisait vibrer. À chaque fois que je côtoyais des gens qui vivaient une toute autre réalité de moi que la mienne, j'avais l'impression d'être en contact avec la vraie game, la vraie vie, là, tu sais. Puis on est à des années-lumière du show business, là, tu sais. Alors ça, pour moi, j'allais m'abreuver, m'inspirer de ça. Et ça me faisait vibrer. Et en plus, Yvon Deschamps, c'est un grand ami de notre famille. Donc quand j'ai su qu'il était impliqué comme porte-parole depuis presque le début...
C'est vrai.
Je m'étais dit, ben là, je peux pas me tromper. Puis secrètement, j'admirais Yvon. Tu sais, oui, c'est un ami de mon père, mais au-delà de l'amitié, c'était l'homme. Ce qu'il dégageait avec Judy, je dis, oh my God, ils étaient impliqués dans le chaînon, ils étaient impliqués dans un paquet d'affaires. Je dis, il est donc bien hot. Puis c'est pas quelqu'un qui se gargarise de ça, il s'en vante jamais. Donc, en disant oui au défi sportif, et ça, j'ai même pas parlé du sport, parce que je suis sportif, j'aime essayer des différents sports. Et... comment veux-tu essayer un sport pour les personnes qui ont des limitations si tu n'en as pas, toi, de limitations? On est rarement invité à jouer au rugby en fauteuil, au basket ou au goalball ou peu importe. On n'a pas accès à ça quand tu es sans handicap. Donc, je me disais, hey, je vais découvrir un nouveau monde. Donc, il y avait une belle curiosité. Oui, j'avais une sensibilité, une fibre humaine sensible à la différence, mais je me suis fait ramasser. Et là, je suis là, 25 ans plus tard.
Puis 25 ans, encore là, on peut être porte-parole quelques années d'une cause qui nous tient à cœur, mais de durer comme ça, pourquoi t'attacher à nous comme ça? Nous, on est tellement, on se trouve tellement choyés de t'avoir, mais c'est quand même fou comme... De savoir en 25 ans que tu étais encore avec nous pour en parler puis défendre nos idées.
Bien, ça, c'est le moment Téléthon. Ben, j'ai l'impression que, premièrement, c'est un privilège d'être le porte-parole de personnes qui ont des handicaps. Toi, t'en as pas. J'en ai toutes sortes de limitations, mais elles sont soit temporaires ou elles sont très faciles à masquer, ou encore que, tu sais, la neurodivergence, TDAH, je veux dire, c'est pas la fin du monde, un TDAH, mais c'en est une. Sauf que c'est tellement rien par rapport à la réalité d'une personne qui doit se déplacer en fauteuil, qui doit avoir son transport adapté ou qui doit dépendre d'un paquet de gens autour pour pouvoir avoir une vie comme tous les citoyens devraient avoir droit, tu sais. Alors moi, je suis leur porte-parole. Donc, autrement dit, quand je prends le micro, c'est à eux que je dois penser, tu sais. Donc, je sais pas si c'est un sentiment d'imposteur, mais je me dis, j'ai une belle vie, je suis gâté, je vis dans une certaine paix, une certaine abondance, qui n'est pas le cas de gens qui ont des limitations. T'sais. Juste tantôt, Alison, qui nous parlait de ses équipements, de son fauteuil spécialisé pour le boccia, c'est un fauteuil à 22-25 000 $. Je m'excuse, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Puis beaucoup de gens qui ont des limitations n'ont pas d'argent. C'est leur réalité. Ils vivent avec l'aide sociale. Tu sais, je veux dire, tu vas pas loin, là. Donc, je me dis, alors, quand tu as l'occasion de prendre le micro, d'être devant une caméra, ben, dis quelque chose qui peut faire avancer la cause et qui peut éveiller les consciences. Alors, c'est pour ça que mon défi, à chaque année, j'ai un fond noir d'amener des personnalités pour qu'ils viennent animer les remises de médailles, rencontrer les jeunes, et t'as remarqué, ça fait longtemps que t'es là, ils reviennent tous.
En effet.
Ils reviennent toutes et tous encore là. J'ai la confirmation, Sébastien Delorme, il revient, Marie Orsini revient, puis là, je vais gosser Michel Charrette, Michel Mambara, toute la gang va revenir. Mais c'est ça qui est le fun, c'est des gens qui reviennent. Alors, un, ils sont enrichis de la différence qu'ils rencontrent, puis nos enfants et nos athlètes handicapés qui côtoient ces vedettes-là, ils se sentent importants, ils se sentent reconnus, ils se sentent applaudis. Donc, moi, c'est mon fun, mais c'est de contaminer mon environnement, mon entourage à la différence, parce que c'est pas la différence qui va venir te chercher si facilement. C'est à toi d'aller faire un petit détour, puis vas-y voir. Mais la beauté de tout ça, c'est, regarde, quand tu y goûtes, t'es faite.
Puis je sais que ça va être dur, ma prochaine question, mais ton moment le plus marquant en 25 ans?
Je peux pas... Écoute, tu demanderais ce col-là à Maxime Gagnon, notre directeur général, ou à notre fondatrice, Monique Lefebvre. Voyons donc, elle dirait, comment veux-tu que je te donne un moment marquant? Il y en a un à chaque année.
Okay. Qu'est-ce qui te marque de bord généralement, ouais, d'année après année là, dans le cadre du défi?
L'entraide. Sportif? Moi, ce que je trouve beau, c'est l'entraide. Et là, de plus en plus, c'était pas autant ça quand j'ai commencé il y a 25 ans, mais c'est de voir de plus en plus de parents. De plus en plus la fratrie, les frères, les sœurs qui viennent encourager le membre de leur famille qui a une limitation fonctionnelle. Moi, je trouve ça hot, puisque ce n'était pas le cas. J'ai remarqué qu'il y a plus de gens dans les estrades qu'à mes débuts, il y a 25 ans. On a encore beaucoup de travail à faire. Puis Dieu sait que dans les 25 dernières années, on a créé des événements, on a fait des super finales, des gros parties de clôture pour, en espérant que les estrades seraient remplies. Puis c'est pas tout le temps le cas. Même quand tu as un sport spectaculaire comme du para-hockey, tu sais. Mais... ou du rugby en fauteuil. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que l'entraide, à chaque année, moi, je trouve ça hallucinant de voir... Oui, il y a des parents, bien sûr, qui s'investissent avec leurs jeunes. On le voit, je veux dire, il y a des coachs qui sont souvent le père ou la mère de leur enfant qui, ben, en fait, ils passent du temps ensemble. Puis de toute façon, si c'est pas le parent, des fois, le jeune n'aura peut-être pas toujours accès à... un sport d'équipe, plus difficilement en tout cas. Mais moi, c'est de voir... écoute, je pense que c'était... C'était-tu à Layton? Philippe Layton? L'équipe, l'école Philippe Layton?
L'école, oui.
L'école Layton. En tout cas, c'était une école anglophone. Si c'est pas Hall ou c'est Philippe Layton... Hall, j'ai oublié.
Peter Hall.
Peter Hall ou Philippe Layton. Et j'avais vu un jeune qui était à sa dernière année, donc il avait 21 ans. C'était sa dernière compétition. Et... écoute, je pense que je l'avais appelé, je l'avais posté sur Facebook le moment Kleenex de ma semaine du sport scolaire. Puis j'avais dit à Monique, on broyait, Monique Lefebvre, on broyait tous les deux. Mais c'était de voir le jeune qui faisait sa traversée du 25 mètres. De 25, mais non, en fait, c'était en largeur. C'était la piscine.
Donc, en natation.
En natation,
oui.
En natation, il y avait la largeur de la piscine. Donc, c'est pas la distance du 25 mètres. C'était coupé et il y avait des flotteurs à gauche puis à droite. Et c'était de voir le prof dans l'eau qui nageait à côté de son jeune. Et son jeune, il a souri tout le long. Et moi, je broyais. J'en revenais pas. Je filmais, je broyais. Je dis, mais voyons, c'est donc bien hot. C'est donc bien hot de voir qu'on se mouille dans tous les sens du mot, au défi. Alors moi, de voir des intervenants, des bénévoles, des parents. Tout le monde crie, tout le monde applaudit. Puis la piscine, c'est comme un défi à l'intérieur de la en bulle effet. Du défi. Tu rentres à la piscine à Claude Robillard, tu rentres dans un monde. Là. Puis la proximité, puis des gens qui ont une déficience intellectuelle, une trisomie, là, sans contre-foot, qui sont mouillés, ils te font des câlins, puis alors, ouais, on a du fun. Donc, tu te mouilles dans tous les sens du mot. Alors, quand j'ai su que cette année, on en avait encore du sport scolaire en natation, je dis, oh yes, enfin. C'est comme un petit événement chouchou. T'sais. Le sport scolaire, c'est un événement
évidemment,
majeur.
C'est ça. T'sais. Puis l'ambiance, c'est sûr que l'ambiance autour de la piscine, c'est un peu plus étroit aussi. Il y a chaud. De l'ambiance. Et dans les estrades, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour encourager, pour crier. Ouais. Fait que très, très belle ambiance. Qu'est-ce que le défi sportif t'a appris à voir autrement?
Je pense qu'avec beaucoup d'humilité, il faut reconnaître que quand tu ne côtoies pas la différence, ça se peut que tu sois maladroit. Ça se peut que tu saches pas comment approcher une personne qui a une limitation. Et c'est normal. C'est pas de ta faute. C'est juste parce que dans la société, malheureusement, ça fonctionne en silo. La communauté sourde est souvent isolée. Des gens qui ont une trisomie 21 sont mélangés entre eux. C'est rare que tout le monde se mélange, malheureusement. Et on est tous souffrants de ça. On va tous vivre un malaise parce qu'on ne côtoie pas assez la différence. Et c'est niaiseux parce que moi, au primaire, moi, j'ai 60 ans, mais au primaire, j'ai fait le saut quand j'ai vu une fille qui avait la peau foncée. Ça vient d'où, ça? On sait qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais lorsqu'on apprend que elle vient d'Haïti ou elle vient d'Afrique, tu dis, OK, après ça, c'est fini. Mais c'est juste que quand tu vois cette différence-là visuelle, tu dis, c'est quoi, ça? Elle n'est pas comme moi. Moi, je suis pas comme elle. Mais une fois que c'est nommé... On passe à autre chose, c'est réglé. Surtout les enfants, hein?
Oui,
ça s'adapte très, très, très vite. Donc, je me rends compte que cette différence-là, plus tôt on est invité à l'inviter, à la rencontrer, à contacter cette différence-là, bien, moins épais on a l'air quand on arrive, puis je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Sauf que tout s'apprend. Donc, moi, le défi sportif Altergo m'a amené à apprendre comment... célébrer la différence, comment la rencontrer et aussi de plus avoir peur de « j'ai pas compris ce que t'as dit ». La personne a une paralysie cérébrale, c'est difficile parfois pour elle de bien prononcer, de bien s'exprimer. Mais fais pas semblant, demande qu'elle te répète, pas grave. Ou encore, tantôt Chloé, elle dit « je peux-tu te donner la bise ?» Parfois, elle me dit « oui ». C'est pas tout le monde qui aime se faire donner des becs puis des hugs, là. Demande la permission avant, surtout des gens qui ont un TSA, trouble du spectre de l'autisme. C'est vrai qu'il y en a souvent dans leur bulle. Il y en a que ça paraît presque pas. Prends pas de chance, demande-le. Mais tu vois, le défi m'a montré à demande. Vérifie, valide. Si t'es pas sûr, bon. Mais de toute façon, comme porte-parole, tu le sais, tu nous fais toujours un petit dossier comment on parle du défi sportif dans les médias. Qu'est-ce qu'on veut éviter de dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire à la place de... Ouais, mais c'est correct. Tout s'apprend. Donc ça, le défi sportif m'a appris à apprendre et m'a appris à m'adapter. De toute façon, s'il y a des maîtres de l'adaptation, c'est pas moi. C'est nos athlètes. Ah ouais.
Qu'est-ce que tu dirais à une personne pour qui ça va être le tout premier défi sportif Altergo?
Comme participant ou comme spectateur ou comme bénévole?
Les trois.
OK. Ben, je pense que... moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est venu qu'une seule fois au défi sportif. Donc, il se passe de quoi? C'est sûr qu'il y a une magie. C'est sûr qu'il y a un ingrédient secret que tu ne peux que découvrir en y allant. C'est aussi simple que ça. Donc, que tu sois comme bénévole, et peu importe la tâche, c'est sûr qu'il y a des jobs plus fun que d'autres. Mais il y a des gens qui préfèrent des fois faire des jobs plus effacés. Pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas un naturel avec le handicap, mais il y en a qui sont très habiles à être des conducteurs de van, à préparer des repas. Mais c'est sûr que de faire le chronomètre en athlétisme, au sport scolaire, ou en natation, ou en étant préposé aux médailles, puis remettre des médailles, c'est le fun, ça aussi, tu sais. Donc, comme bénévole, c'est sûr que si c'est ta première fois, tu viens de tomber sur la plus belle planète au monde.
Puis je dirais que Comme tu disais, il y a plein de tâches qui nécessitent pas un contact direct avec les athlètes, mais les postes de bénévoles, tous les postes de bénévoles sont importants pour qu'on réussisse à offrir un défi sportif de qualité. Donc, j'en profite ici pour tout vraiment les remercier, nos bénévoles, parce qu'ils font vraiment toute la différence dans l'organisation de cet événement qui a maintenant 43 éditions.
Ben oui, et tu imagines ce que ça coûterait?
Oui.
S'il fallait qu'on paye, ne serait-ce que la moitié des bénévoles, on pourrait pas faire un événement comme ça, tu sais. Donc, si tu es bénévole, merci de t'impliquer. Si tu veux venir bénévoler, viens t'inscrire. Alors, l'athlète qui découvre le handicap, peut-être parce que suite à un accident, il est plus âgé, il est dans la quarantaine, cinquantaine. Ben moi, les athlètes que j'ai côtoyés au défi qui sont pas venus au monde avec une limitation, mais qui ont dû apprendre à vivre avec leur limitation, eux autres, ils m'ont enseigné que ça se terminait pas avec l'accident. Qu'il y avait une vie à cause ou grâce à l'accident. Tu sais, je pense à Pierre Mainville, qui est un champion en escrime en fauteuil, qui a rencontré sa femme. C'est là qu'il a rencontré l'amour. Il a rencontré sa douce à Sonia,
ben
au
oui,
défi.
Au défi sportif Altargo.
Et ils ont eu deux bébés ensemble. Exactement. Ils ont deux enfants qui sont rendus grands maintenant. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de prendre la parole. Ils me disent, j'aurais jamais eu la belle vie que j'ai si j'avais pas eu cet accident-là, si j'avais pas rencontré tel entraîneur, si j'avais pas rencontré tel préposé. Alors, il y a des gens qui sont capables de nous dire ça se termine pas ta vie avec le handicap. Malheureusement, il y en a qui c'est beaucoup plus difficile, puis ils passent par un tunnel beaucoup plus sombre pendant X nombre d'années. C'est pas donné à tout le monde de se sortir du coma ou de se sortir d'une épreuve. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais moi, ça me donne espoir que ma vie, si moi je devais perdre l'usage d'un membre, d'une faculté du jour au lendemain, ça veut pas dire que ça se termine. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose aussi. Alors ça, le défi me l'a beaucoup appris. Donc, que ce soit des bénévoles, que ce soit des athlètes ou monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le défi sportif puis qui veut voir un show gratis. C'est gratuit. Viens voir ça. Tu vas avoir du fun. Tu vas trouver ça spectaculaire ou profondément humain.
J'aimerais te demander, en terminant, le défi sportif Altargo est dans quelques semaines. Maintenant, le compte à rebours est vraiment bien commencé. À quoi tu es le plus hâte?
J'ai mentionné un petit peu la piscine tantôt, parce que ça fait peut-être 2 ans qu'il n'y a pas eu des événements en piscine, étant donné qu'il y avait des rénovations au centre sportif à Claude-Robillard, complexe sportif. Qu'est-ce que j'ai le plus hâte? Je pense que c'est difficile de manquer la haie d'honneur. Hein? C'est difficile de passer à côté de ce moment-là, et parce que je le vois dans les yeux de ceux qui sont là pour la première fois aussi. Nos bénévoles sont tous avec le même T-shirt rouge et on fait la R, c'est spectaculaire. Mais quand on voit les dignitaires, il y a des ministres, il y a des maires d'arrondissement, on a des gens du milieu des affaires, des gens qui ont réussi, qui valent des millions et qui viennent se mettre à la file indienne, dans la haie d'honneur, puis tu vois que, oh boy, eux autres filles, ils viennent de tomber dans le club des pleureurs, des pleureuses du défi. Alors tu te dis, wow, ils savaient pas c'était quoi. Donc ça, juste de vivre la haie d'honneur, d'en être un des animateurs ou des participants, ou d'être bénévole, il se passe de quoi à la haie d'honneur. Donc ça met le ton.
Effectivement. Ça part très bien une journée de compétition du volet scolaire, ben ouais, ça absolument. C'est clair. Jean-Marie, en plus, ça va être toi qui vas animer ces belles cérémonies d'ouverture.
Yes, j'aime ça,
bientôt.
Je suis pas tout seul.
Non, t'es pas tout seul.
On est une gang de porte-parole.
C'est ça. J'aimerais en profiter pour souligner tes comparses, Chantal Petitclerc, Madame la sénatrice, Mickey Guerrier, Hugo Girard et Nancy Audet qui sont tes comparses comme porte-parole et qu'on verra toute la semaine durant le défi sportif Altargo.
Yeah.
Jean-Marie, merci d'être un porte-parole si fidèle depuis 25 ans. Ça sera ton 25e défi sportif, dans le fond.
Quart de siècle.
Hé là là, le temps passe vite, hein?
Oui, ça passe vite. Puis honnêtement, tu sais pas dans quoi tu t'embarques quand tu dis oui à quelque chose. Mais par contre, je veux pas dire non. Je peux pas dire non au défi. C'est impossible. Je me ferais violence.
Puis donc, on peut compter sur toi pour encore 25 ans.
Ben, je fais un défi à la fois, je suis pleinement excité au 43e.
Bien, merci beaucoup, Jean-Marie. Merci de ta présence. Puis on se voit très bientôt au Complexe sportif Claude-Robillard pour ce 43e défi sportif à Altargo.
Yep.
Le défi sportif Altargo évolue constamment. On est rendu même une référence nationale et même internationale. Donc, c'est le temps de parler d'innovation avec mes prochains invités. Défi, défi, défi sportif. donc, on parle toujours d'innovation. Bonjour, Maxime Gagnon, président directeur général d'Altargo. Mon patron, Jean-Marie Tandoui, lui a dit que j'étais big, là, mais il est plus big que moi pour le défi sportif Altargo. Maxime, pourquoi c'est important d'innover à travers le défi sportif Altargo?
Je pense qu'à la base, pour le sport des personnes handicapées, c'est important d'innover. De cet événement-là est un événement fort depuis plus de 42 ans. On a toujours essayé d'innover. Quand Monique était là, c'est quelque chose qu'on s'est donné. C'est une mission qu'on s'est donnée. Elle le faisait déjà depuis le début. En 96, on a été voir qu'est-ce qui se faisait le mieux. C'était les Paralympiques. Donc, de poursuivre ce mandat-là, je pense que c'est grandement important.
Puis, est-ce qu'il y a des disciplines qui pourraient apparaître éventuellement dans le défi sportif Altargo? Est-ce qu'il y a des vœux de pouvoir continuer une expansion?
Je dirais apparaître et réapparaître. Le cyclisme nous manque beaucoup. On a déjà eu une Coupe du monde d'escrime pendant 10 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec cette discipline-là. On sait qu'on a plusieurs Canadiens maintenant qui sont là. Est-ce que c'est grâce à ce qu'on a fait pendant 10 ans? On le souhaite, on l'espère. Mais oui, on est toujours ouvert à d'autres disciplines. Le goalball, entre autres, qu'on aimerait avoir, qu'on a eu il y a longtemps, qu'on aimerait avoir. Donc oui, il y a des sports comme ça qu'on aimerait avoir, tant à un niveau national qu'éventuellement aussi international.
Au défi sportif cette année, on a 15 sports, ce qui est assez exceptionnel comme nombre de sports, mais il y aurait de la place à en avoir encore bien d'autres dans ce cas-là.
Sûrement, soit dans le cadre de l'événement ou peut-être même en dehors de l'événement, on serait ouvert à ce genre d'ouverture-là. Entre autres, on l'a essayé pour le parahockey dernièrement, ça n'a pas fonctionné, mais éventuellement, on va réessayer aussi pour d'autres disciplines aussi, et aussi le parahockey.
Donc, on peut dire que le défi sportif Altargo, qui est riche de ses plus de 40 ans d'existence, inspire et a beaucoup de succès, mais inspire pas seulement juste à Montréal pour accueillir d'autres événements de sport adapté, mais ailleurs au pays. J'aimerais que tu me parles un peu des One Ability Games qui vont avoir lieu pour la première fois cette année, inspirés du défi sportif Altargo.
Exact. C'est un rêve que, encore une fois, Monique et moi, on avait plusieurs rêves, mais celui-là en était un beau, d'avoir des défis sportifs à travers le Canada. Avec Andrea Carey, qui est la directrice de One Ability, on a bâti un partenariat sur 4 ans. Et cette année, c'est la 4e année. Pendant 3 ans, ils sont venus voir avec des délégations, des employés, des partenaires venir voir l'événement des défis sportifs Altargo. Et de là est né les One Ability Games. Et pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va faire bouger plus de jeunes au Canada. Il y avait un objectif d'environ 500 jeunes la première année. Ils sont près de 1000. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un besoin. Et il y a des choses qui ont bâti, qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, que nous, on va pouvoir expatrier au Québec. Et par la suite, bien, on veut ouvrir à d'autres provinces, que ce soit le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, l'Alberta. On aimerait ça travailler avec eux éventuellement pour offrir cette plateforme-là. Puis de montrer aux Canadiens et Canadiennes que les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, c'est important de les faire bouger. Puis présentement, il n'y a rien qui les fait bouger. Il y a des petites choses qui se font, mais à grande échelle. Puis de pouvoir permettre à un jeune de BC de venir à Montréal, avec son école, avec sa classe ou avec ses parents, de venir faire la compétition à Montréal, ça peut être intéressant éventuellement. Qui sait, on aura peut-être un circuit canadien éventuellement pour le réseau scolaire, mais aussi de permettre à des organisations comme les organisations nationales de tenir des championnats canadiens avec des organisations qui sont structurées, organisées, qui connaissent les besoins de la clientèle et non pas d'arriver des fois malheureusement avec des organisations qui ne connaissent pas tout à fait bien la clientèle. Donc le fait d'être avec des organisations qui travaillent là-dedans et qui bâtissent à chaque année l'amélioration du sport et l'accueil de ces personnes-là et l'expérience, bien, je pense que ça va être gagnant en bout de ligne.
Puis selon toi, qu'est-ce qui est inspirant dans le défi sportif Altargo qui est exportable de cette façon-là? Pourquoi on vient chercher notre expertise?
Je pense que c'est le rayonnement, puis ce que l'athlète va aller chercher aussi. Le fait qu'on soit multidéficience, qu'on soit pas juste une limitation fonctionnelle comme les Jeux paralympiques peuvent l'être ou les Olympiques spéciaux. Le fait que tout le monde est sur un même toit. Je le dis souvent, tu sais, l'athlète qui arrive en natation puis sur le plot de départ, bien, c'est tous des gens qui sont amputés d'une jambe puis qui, lui, il est pas habitué d'en voir, il trouve ça intéressant. Puis qu'en arrière, oups, c'est quelqu'un qui lui manque un bras ou que ce soit en athlétisme, fauteuil roulant, marchette, ainsi de suite. C'est ça qui est positif, c'est que la personne se sent inclue. Il y a une valorisation d'elle par le sport. Puis je pense que c'est juste l'accumulation de tout ça qui fait que la personne va être encore plus positive envers elle dans toutes les sphères de sa vie.
Pourquoi c'est important que ce mouvement existe partout, puis je dirais à travers le Canada?
Parce que le défi sportif Altargo, même si ça fait 42 ans qu'il est ici, il est méconnu. On reste l'événement multisport le plus grand au Canada. Puis, on n'est pas connu. On a rencontré des élus dernièrement municipaux. Puis on leur dit, savez-vous, vous avez ça? Ah oui, on a ça, oui, savez-vous, c'est lequel? Oh, non, on ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et de là, je crois que de l'exporter, et si on est capable de le mettre pan-canadien, bien, est-ce que notre message va résonner plus fort? On a les Paralympiques qui sont aux 2 ans, hiver, été, en alternance. Les Olympiques spéciaux, c'est la même chose. Donc, pour moi, je pense que c'est important d'en faire parler à chaque année, à un moment X dans l'année. Chacun va avoir son créneau. Nous, c'est fin avril. BC, c'est mi-mai. Les autres provinces, on ne sait pas. Mais plus on va parler de nous, par cette masse d'athlètes-là, je pense que c'est là que ça va être important. Puis c'est là que ça va rayonner, puis ça va être payant pour autant les organisateurs que la clientèle, que les parents, que la famille proche. C'est là que ça va devenir important.
Si on revient de chez nous, là, on a fait un peu le tour du Canada, mais si on revient chez nous pour cette 43e édition du défi sportif, Maxime, toi, tu en as vécu plus de 30. À quoi tu as hâte chaque année? Qu'est-ce qui te rend le plus fébrile à l'approche de ce défi sportif Altargo?
De voir les athlètes qui sont contents de revenir à différents niveaux. Il y en a que c'est des points internationaux, il y en a que c'est la conclusion, le basketball. À chaque année, c'est comme la conclusion de la saison. Ils sont contents d'être là. Ça reste que le moment le plus important pour moi reste tout le temps de voir la famille et les parents dans les estrades. Ils sont là puis qui sont fiers de voir ce qu'ils voient. Ça peut être une première expérience, ça peut être une 15e expérience, mais les parents sont là, sont présents. Puis je pense que c'est là où nous, chez Altergo, on peut être fiers parce que c'est l'ensemble de la communauté, c'est l'ensemble de la famille de cet athlète-là qui est là, qui fait que c'est important. Puis encore une fois, de faire parler de nous. T'sais, je pense que c'est important. On le fait une fois par année, c'est pas assez. Mais je pense qu'il y a de quoi être fier de ça. Quand Monique l'a parti, c'était d'avoir une image positive et de faire parler des personnes handicapées beaucoup, de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose que de rien faire. Souvent, c'était ça quand on recule 42 ans en arrière. Donc, ce mouvement-là est encore là et est encore plus présent.
Bien, merci, Maxime. Merci de ta présence. On se reparle souvent d'ici le défi sportif oui. Altargo pour pouvoir réaliser et faire vivre cette belle expérience-là à plus de 6 000 athlètes qui seront présents. Merci encore. Et pour le prochain segment, on innove toujours au défi sportif Altargo et on vous présente une compétition en grande primeur cette année. Ça sera une première canadienne. On vous en parle avec notre prochain invité.
Merci.
On poursuit ce balado en compagnie de Mélanie Labelle, parce qu'au défi sportif Altargo, on aime ça repousser les limites. Et Mélanie Labelle, qui est une de nos athlètes ambassadrices avec les autres que je vous ai présentées tout à l'heure, et elle est là pour une raison bien spéciale, parce que c'est grâce à elle si on peut faire quelque chose d'historique cette année dans le cadre du 43e défi sportif Altargo, c'est d'accueillir le tout premier championnat canadien féminin de rugby en fauteuil roulant. Et c'est une première là, dans l'histoire de ce sport. Et c'est grâce à toi, Mélanie. Merci d'être là.
Sérieusement, j'ai des frissons. Quand tu dis le tout premier championnat canadien féminin de rugby en fauteuil, j'ai des frissons. Mais je vais dire tout de suite, c'est pas que grâce à moi. Je pense que c'est une super belle collaboration. Vous avez accepté de nous recevoir. Et c'est sûr que nous, on voit grand, on voit un futur. Puis on était toute une équipe bénévole derrière. Donc, c'est pas seulement grâce à... Je peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Mais clairement que ça prend des gens qui poussent. S'il n'y avait pas 21 filles derrière qui demandent qu'on a un volet puis qui demandent qu'on a des occasions de jouer, je ne pourrais rien faire. Donc, ce n'est pas que grâce à moi, mais merci de nous recevoir.
Alors, Mélanie, peux-tu nous dire à quel point ça va être un événement historique auquel on va participer, on va assister, nous, puis toi, participer à la fin du mois d'avril?
C'est historique. Le rugby, depuis sa création, je pense qu'il me semble que c'est dans les années... Je n'ai pas la date exacte, là, mais il me semble que c'est dans les années 70. Intègre les femmes. Donc, c'est un sport mixte depuis sa création. Intègre les femmes... On a une déclinaison de classification, donc de 3,5 à 0,5. 3,5 étant le plus fonctionnel, donc les joueurs, les porteurs de ballon, les attaquants sur le terrain. 0,5 ayant le moins de fonctions, mais on est intégré ensemble à 4 joueurs. On a un total de 8 points sur le terrain. Puis quand il y a une femme ou deux femmes, on peut ajouter 0,5 au total de classes sur le terrain. Donc ça l'aide à... pallier pour les différences dans la longueur des membres et où
la force
ou musculaire. La propension, oui. Exactement. Mm-hmm. Donc, ça l'aide, mais c'est certain que ça a toujours été comme ça fait un petit moment que je suis la seule femme sur l'équipe nationale. Il n'y en a pas une dans chaque équipe dans le monde. Mais là, on voit un essor. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent participer. À Paris, je pense qu'on a eu un record de participation féminine. Au Canada, il y a de plus en plus de femmes qui participent aussi. Donc oui, ça va être historique. Puis là, on a la demande et puis on a l'engouement. Et puis on essaie de répondre à ça.
Et ça fait en sorte que ça va faire un très, très beau tournoi historique, comme j'aime bien le rappeler. Justement, comme tu le dis, Mélanie, présentement, il y a plus de femmes qui jouent au rugby en fauteuil roulant. C'était un peu moins le cas quand tu as commencé. Toi, comment t'es tombée dans le rugby en fauteuil roulant?
Bien, écoute, comment je suis tombée?
Petit jeu de mots ici.
Bien, j'étais en réadapte, justement. Je venais de me... je venais de me casser le cou. Donc, je m'étais fracturé la vertèbre C6-7. J'étais en réadaptation. C'est une réadaptation qui est extrêmement longue. Puis dans le processus, mes kinésiologues m'ont dit « Ah, t'aurais le fit pour faire le rugby, pour jouer au rugby en fauteuil roulant. » Et là, du haut de mes multiples retraites sportives au cours des années, j'étais comme « Ben non, moi, mon Dieu, le sport, ça fait un... J'ai pris ma retraite, là. J'étais rendue...
J'ai donné.
Exactement. J'ai donné. Je suis plus à l'étape de comme, prendre soin de mon corps pour le reste de mes jours. Puis, ils ont comme pas accepté mon nom. Ils ont amené les machines de Montréal au centre de réadap. Puis, ils m'ont comme forcé dans une chaise. Pas forcé, mais...
avec consentement, quand même.
Avec consentement, mais tu sais, l'équipe était là. Tout se présentait. On n'était pas juste mon handicap. Donc, ils ont vraiment accueilli tout le monde du centre de réadapt. Donc, mes amis du centre ont pu participer à l'activité aussi. Puis, je te promets, là, j'ai rentré dans la chaise. On m'a mis du duct tape sur les mains pour tenir les gants parce que je ne peux pas les tenir comme ça fonctionne. Puis, j'ai commencé à pousser les roues. Puis, toutes les habiletés transférables se sont transférées immédiatement. C'est comme si j'avais plus de handicap, je voyais les espaces. Ça pouvait pas être confrontant comme c'était pas un sport auquel je pouvais comparer rien d'autre, dans le fond. C'était comme plusieurs sports mis ensemble dans ma tête, puis là, j'essayais d'utiliser tous les outils que j'avais pour le transférer. Puis, mon Dieu, que j'ai... De la première journée que j'étais dans une chaise, j'ai pas été capable d'arrêter le sport. Puis ça m'a énormément donné au niveau de communauté, au niveau d'indépendance, apprendre à voyager. J'ai accompli des choses que je pense que personne n'aurait pu s'imaginer que j'allais accomplir grâce à ça.
Puis quelques années plus tard, une place au sein de l'équipe nationale, presque place au sein de l'équipe paralympique. Presque. Donc, quand même un parcours, oui, qui aurait pu aller jusque-là, mais un parcours quand même très, très élogieux. Oui,
quand même.
Puis, qu'est-ce que tu retiens de là, maintenant, tu vas jouer. Joues-tu encore avec l'équipe nationale?
Oui.
Donc, puis tu joues avec une équipe féminine.
Exact.
C'est quoi la différence entre les deux?
Difficile à dire. C'est différent. C'est difficile à dire parce qu'au sein de l'équipe féminine, je ne veux pas nécessairement prendre de place de leadership. Je veux plus mettre la table. Je veux qu'il y ait une place pour que les femmes puissent évoluer ensemble dans le sport puis qu'ils puissent prendre le temps d'apprendre dans un espace qui est sécuritaire et sain pour elles. Je veux aussi qu'on bâtisse nous-mêmes notre confiance. Je veux qu'on ait des leaders sur le terrain puis qu'ils puissent établir les plis tactiques puis tout ça. Moi, j'ai l'occasion de le faire avec l'équipe nationale puis je veux vraiment que cette table-là soit mise pour que certaines filles puissent le faire avec le volet féminin. Donc, c'est différent. C'est un leadership qui est plus silencieux, qui est plus... Je vais donner des occasions, mais je regarde les autres évoluer. Fait que c'est complètement différent. Pour les femmes, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de désir d'aider l'autre à évoluer aussi. Puis, je veux dire, c'est la fête, là. On s'entend. La communauté est belle.
Oui. Ouais. Mm. Le défi sportif Altargo, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Évidemment, tu as joué à quelques tournois de rugby jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet événement-là?
Ça a quand même été mes premières expériences en parasport, surtout parce que c'était local, c'était à Montréal. C'est des événements où ma famille a pu venir m'encourager aussi, puis des enfants ont pu venir me voir évoluer au rugby. Puis c'était un autre type, dans le fond, une déclinaison du rugby en fauteuil roulant que vous accueillez, c'était le rugby low point, donc les bas pointages, donc du 1,5 au 0,5, où est-ce qu'encore là, on avait la chance de faire les jeux des porteurs de ballon, qu'on n'a pas souvent la chance de faire, on est plus bloqueurs. Puis à un niveau plus personnel, encore une fois, dans mes petits souvenirs de personnes qui étaient au centre de réadaptation, qui ne pouvaient pas comme s'imaginer un futur, j'ai comme un lien spécial avec le défi parce que je suis une ancienne joueur de soccer. Donc j'ai joué au soccer pendant, je pourrais même pas compter le nombre d'années, là, mais de mes 10 ans à mes 28 ans.
OK.
Ça se compte facilement, finalement. Faites les calculs! puis une athlète avec qui j'ai joué au soccer à l'université est venue me voir en réadaptation. Puis, tu sais, on dirait que je pouvais pas m'imaginer un futur. Je pouvais pas... tous mes modèles comme avaient plus de sens parce qu'ils passaient pas à travers les mêmes étapes que moi. Puis là, je pouvais plus m'imaginer la suite. Puis... mon amie qui était Élodie Laroche-Lefèvre.
De la famille. Principauté Lefèvre.
Et voilà. Elle m'avait dit, écoute, moi, mes grands-parents, t'sais, on grandit avec un handicap, puis écoute, il n'y avait pas grand-chose, mais ils l'ont bâti, ils l'ont fait. T'sais, ils se sont pas dit, ça n'existe pas, je ferai rien. Puis on dirait que juste mettre ça dans mon coffre à outils, là, juste cette vision-là de si ça n'existe pas, c'est pas grave, crée-le, ça a changé le reste de mon parcours. Puis. Voilà. Fait que pour moi, comme on dirait que c'est de savoir que Monique Lefèvre, qui était à la tête du défi sportif...
Fondatrice, effectivement,
exactement,
du défi.
Pendant des années, de savoir que ses grands-parents ont fondé le Civa à Montréal aussi. Puis de voir dans les environnements puis les sphères dans lesquelles moi, j'évolue puis que d'autres gens évoluent aujourd'hui qui ont cet impact-là des années plus tard. Mon Dieu, que ça me drive. Excuse-moi d'utiliser le mot anglais, mais c'est, ça fait partie de ce qui me propulse vers l'avant. Fait que j'ai ce lien-là, un peu spécial avec le défi, parce que ça a été dans les fondations de qui je suis aussi, comme dans mes valeurs.
Puis justement, tu parlais d'un rôle où tu veux laisser la place à tes coéquipières en vue de ce championnat canadien-là. Qu'est-ce que tu espères que ces personnes-là qui participeront peut-être pour une première fois au défi sportif à Targo, ils découvrent et qui puissent partager ensuite par la suite avec d'autres?
Bien, en fait... On s'est posé la question parce que au départ, on s'était dit, on s'était comme mis un chiffre utopique en tête. On s'est dit, bon, à 18, on va couper, tu sais. Puis, on pensait pas atteindre le 18 femmes. Finalement, tout le monde a dit oui et plus. Donc là, on s'est comme posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on accepte des gens qui viennent de commencer à jouer? Est-ce qu'on accepte? Puis, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on voulait que nos premiers nationaux aient l'air? Puis, je pense que on peut pas refuser une participation. Il faut vraiment inclure tout le monde. On veut que ça soit ancré dans leur tête comme un événement historique auquel ils ont pu participer. Puis on veut vraiment que ça soit mémorable pour eux positivement. Donc, on veut qu'il y ait une portion très compétitive. On a mis les meilleures têtes de chaque province ensemble. C'est sûr qu'on a divisé Est, Ouest avec le centre. Puis il va y avoir cet esprit-là compétitif, mais on veut aussi que les filles apprennent au niveau tactique. On veut qu'il y ait une courbe d'apprentissage au cours de la fin de semaine, puis vraiment qu'ils puissent évoluer dans le tournoi, puis qu'ils puissent apprendre, puis devenir leur propre leader.
En tout cas, on a bien hâte de découvrir ce tournoi et voir ce tournoi-là va nous réserver en termes de d'émotions, mais aussi de compétition puis de performance. Merci beaucoup, Mélanie, d'être venue chez nous aujourd'hui. Bon tournoi, puis on sera là, ces lignes de côté, pour vous encourager.
Merci, puis j'aimerais inviter les gens à venir voir en grand nombre. Juste passer, faire un tour, comprendre un peu la vibe de ce que c'est le rugby en fauteuil roulant, puis l'aspect communautaire derrière, comprendre la fête qui se passe là-bas, puis venez nous encourager. C'est
du 24 au 26 avril. Exactement. Au complexe sportif Claude Robillard. Tous les détails sur l'horaire, les horaires plus spécifiques là, des horaires de match sont disponibles sur notre site web.
Parfait. J'allais dire 23 parce que nous, on commence une journée
plus tôt. Oui, c'est ça, l'entraînement est là. Il va y avoir du rugby aussi. On va croiser des joueuses de rugby en fauteuil roulant dès le 23 au complexe sportif Claude Robillard.
Et voilà, venez fêter ça avec nous.
Oui, merci. Merci de ta présence, Mélanie.
Merci.
On conclut avec un dernier segment parce que ça prend une grande famille pour pouvoir organiser un défi sportif à Targo. On en parle avec Michel Boulanger. Alors, pour conclure ce balado spécial 43e défi sportif Altargo, je dois vous dire que organiser un défi sportif Altargo, ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup de ressources, ça prend beaucoup de passion. Et pour nous aider un peu à accomplir le tout, bien, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui notre directrice de financement philanthropie, Michèle Boulanger, qui, cette année, relève un défi de l'organisation de notre première campagne majeure de levée de fonds. Donc, bonjour, Michèle.
Bonjour, Émilie.
Michèle, peux-tu nous parler un peu de la campagne « Dépassons les limites » qui est en vigueur présentement?
Oui, dans le fond, la campagne « Dépassons les limites » c'est vraiment notre première campagne majeure chez Altargo. Fait que ça fait presque 5 ans qu'on a commencé à mettre en place vraiment un vrai programme de philanthropie chez Altargo. Donc, on était rendu là. On était rendu à agrandir notre bassin de donateurs majeurs. Fait que cette campagne-là est vraiment là, axée sur le défi sportif Altargo et sur la création éventuellement d'un mouvement national inspiré du défi. Donc, on a comme 3 objectifs à cette campagne-là. Le premier, très important pour nous, c'est d'assurer la pérennité puis le développement du défi sportif parce que c'est un super programme. On y croit, on veut qu'il continue de vivre puis on veut aussi partager notre expertise à d'autres. On veut que ça fasse des petits. On veut qu'il y en ait partout au Canada éventuellement. Donc, on s'assure que le défi du Québec continue d'être bien implanté, qu'il continue de se développer pour qu'il puisse agir un peu comme une locomotive pour les autres événements qui vont éventuellement se joindre à ce mouvement-là. On veut aussi soutenir d'autres événements ailleurs au Canada, du mieux qu'on peut en tout cas. On veut leur partager notre expertise, mais on veut aussi essayer de les soutenir financièrement. Puis on veut pouvoir faire parler de ce mouvement-là aussi. T'sais, on veut en faire la promotion, on veut que les gens en entendent parler et puis que ça devienne important, si on veut, un sujet dont on entend parler, l'importance de l'inclusion par le sport pour les personnes qui ont des limitations. Ça fait pas mal le tour là, pour la nouvelle campagne qu'on vient de lancer. On est encore en phase silencieuse. On a un gros objectif pour cette année, 500 000 $, mais c'est 2 millions sur 3 ans qu'on souhaite amasser.
Donc, un objectif ambitieux, mais aussi un défi ambitieux cette année. Puis peut-être, comme c'est la première année de cette campagne de levée de fonds, un défi ambitieux pour nos cyclistes policiers qui participeront très bientôt, prendront le départ à leur tour annuel, le tour cycliste des policiers policières du SPVM au profit du défi sportif Altargo.
Oui, dans le fond, c'est un peu en collaboration avec les cyclistes qu'on a décidé de se lancer. Nous, on savait qu'on allait avoir le premier événement inspiré du défi qui allait avoir lieu en Colombie-Britannique. Eux, ils avaient déjà traversé le Canada à vélo pour une autre cause. Nous, ça fait 13 ans qu'ils pédalent pour nous partout au Québec. Puis là, ils nous ont dit, bien, écoutez, utilisez-nous, servez-vous de nous comme votre véhicule pour faire parler de votre défi, de votre projet, puis tout ça. Donc, on se joint à eux. On a créé un comité de financement qui va ramasser une partie des fonds. Mais les cyclistes devraient ramasser presque la moitié de l'objectif de cette année. Ils sont super motivés. Ils vont partir le 28 avril d'une cérémonie d'ouverture du défi pour arriver le 13 mai à Vancouver pour la cérémonie d'ouverture des premiers One Ability Games. Là-bas.
Donc, qu'on a inspiré au défi sportif Altargo.
Exactement. Ça fait 3 ans maintenant que les gens de l'organisme One Ability viennent chez nous, viennent s'inspirer, viennent apprendre comment on travaille, qu'on leur partage notre expertise, tout ça. Puis là, bien, cette année, ça va être le grand jour. Fait que nos policiers, nos gens de cœur, super engagés, ont décidé d'aller porter notre drapeau là-bas. Et on va même aller porter un chèque aussi en même temps pour soutenir leur premier événement là-bas. Fait que on est très chanceux de compter sur ces gens-là.
Donc, c'est un défi dans un défi, oui, dans un grand défi. mais si on parle, c'est quand même quelques milliers de kilomètres se rendre de Montréal à Vancouver. Quelle est la portée symbolique un peu de ce défi du tour cycliste pour ses participants?
Oui, bien, dans le fond, c'est un peu... tu sais, tous les jours, les jeunes qui ont des limitations, là, ils abattent des obstacles, ils traversent des moments plus difficiles, tout ça. Fait qu'on trouve que c'est très représentatif de ce que les jeunes vivent. Fait qu'ils vont passer à travers toutes sortes de périodes là, pendant ce tour-là aussi. Ils s'entraînent aussi, comme les jeunes qui viennent participer à nos compétitions. Là, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils s'entraînent pour être prêts à ça. Fait qu'on les jumelle aussi avec des jeunes qui participent aux défis sportifs. Cette année, on les a jumelés avec des jeunes qui font du para-hockey, qui vont participer aux défis. Fait que les policiers, pour les policiers aussi, c'est les jeunes, ça fait partie de leur, des causes qu'ils veulent endosser. Même le directeur de la police, M. Fadi Daguerre, va faire partie du tour cycliste cette année, va pédaler tout le tour avec, avec les autres cyclistes. Ce sont une vingtaine de cyclistes avec une dizaine de bénévoles. Donc, c'est un grand défi physique, mais c'est surtout... c'est un grand... Il ramasse des fonds aussi, évidemment. Là, c'est un autre défi, ça aussi, de lever des fonds. Il trouve des commanditaires, il s'implique dans l'organisation. Fait que c'est vraiment... C'est des gens de cœur, des gens engagés. Et ils sont déjà très engagés par leur travail, mais là, quand on les voit prendre des vacances pour faire ça, bien, on peut juste être très, très heureux et très choyé comme organisation qui nous a choisis, puis qu'année après année, ils se démènent pour nous soutenir. Là, ça fait 13 ans maintenant, ils ont ramassé plus de 500 000 $ pour nous. Puis là, bien, cette année, ils se sont donné comme objectif de ramasser... 500 000 $ avec nous. Donc, je pense qu'ils vont, ils vont réussir. On leur fait confiance, là. Ils sont pas mal en forme.
Ouais, mais en tout cas, moi, je serais pas assez en forme pour faire, pour traverser le Canada présentement, mais c'est correct, je vais être occupée à faire autre chose en ce temps-là. C'est ma raison pour laquelle j'enfourcherai pas mon vélo à la fin du mois d'avril. Michel, on n'a pas besoin d'être aussi en forme pour pouvoir contribuer au succès de cette 43e édition du défi sportif. Il y a sûrement d'autres moyens d'y contribuer.
Oui, 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 tout à fait. Évidemment, cette campagne majeure-là, si jamais il y a des gens qui souhaitent donner, contribuer au niveau des dons majeurs, on est toujours ouvert à discuter avec les gens. Mais on a une nouvelle campagne cette année qu'on lance pour le défi sportif. C'est une belle campagne de type pair à pair. Donc, et les écoles qui participent au défi et nos bénévoles sont invités à se créer des collectes de fonds pour atteindre un objectif de 50 000 $. On a réussi à aller chercher un beau partenariat avec les gens de Remax Platine, l'équipe Francis McKenzie, donc qui donne 10 000 $ en partant pour parrainer cette campagne-là. Ça nous a donné un beau coup de départ, mais on a un objectif de 50 000 $. Fait que les gens peuvent dès maintenant donner directement sur le site web du défi sportif Altergo. Nos bénévoles sont invités à... se faire des pages de collecte de fonds parce qu'eux autres aussi, des fois, c'est un défi. Hein? Ils viennent, ils passent plusieurs jours, ils travaillent fort, leur entourage ne les voit pas. C'est comme s'ils étaient partis faire un tour cycliste ou s'ils étaient partis monter une montagne. Là. Donc, ils peuvent se créer une page de collecte de fonds puis solliciter leur entourage. Les écoles qui vont se faire des pages de collecte de fonds peuvent solliciter les parents, les autres collègues. Et puis, cette année, on a décidé de remettre 50 % des profits que les écoles vont amasser à l'école. Donc, ça va leur permettre de financer que ce soit le transport, des nouvelles activités pour leurs élèves.
L'entraînement, les inscriptions,
tout ça. Fait que c'est une nouveauté, on essaye ça. Puis évidemment, bien, les gens peuvent simplement faire un don à cette campagne-là qui s'appelle Relevons le défi, puis qui est déjà en ligne sur notre site web du défi sportif. Fait qu'on invite tout le monde à donner généreusement, puis à venir nous voir au défi. Puis l'autre façon de donner... c'est d'être bénévole. Il y a encore des places. Il y a toujours des places de bénévoles, même jusqu'à la dernière minute, pendant l'événement. Fait que si vous avez envie de voir ça, de découvrir l'envers du décor, de contribuer autrement, bien évidemment, vous pouvez devenir bénévole en allant sur le site web aussi.
Absolument. Puis le défi sportif Altergo, c'est beaucoup à Montréal, mais on a des sites satellites à Boucherville, à Longueuil, pour des résidents de la Rive-Sud qui n'ont pas envie de traverser les ponts. C'est sûr qu'il doit rester encore des postes de bénévoles disponibles sur ces sites satellites. Merci Michel, merci de ta présence. Le défi sportif Altergo arrive très vite. Ça commence le 23 avril avec notre mini-marathon qui est de retour au Parc Jarry. Ça va être un événement exceptionnel. Tous nos chapelets vont être sur la corde à linge pour s'assurer qu'on ait du beau temps. Vous avez rencontré Mélanie, elle sera en action dès le 24 avril pour le premier championnat canadien de rugby en fauteuil roulant chez les femmes. Donc, on a très hâte de voir ça. Alison Levine en Coupe du monde de Boccia. Chloé Pellin-Lambert qui sera du volet scolaire. Plus de 6 000 athlètes seront au rendez-vous à Montréal, à Boucherville, à Longueuil. On vous attend. Tous les détails sont au défisportif.com. Une panoplie d'informations sera là. Inscrivez-vous comme bénévole, puis on vous voit dès le 23 avril pour une expérience extraordinaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toutes les personnes qui sont venues s'asseoir sur les fauteuils et sont venues en studio aujourd'hui pour parler de cette passion commune qu'on a pour le défi sportif Altargo. Et merci à Canal M d'avoir rendu tout ça possible. Je vous souhaite bonne journée et j'espère qu'on se voit bientôt. Merci.
Un pas de plus. La vie se passe en avant. Un premier pas. Un premier geste, c'est ça qui compte et pas le reste. Un premier mot, premier regard, la vie s'en va quelque part. Un premier cri, premier bonheur, c'est ça qui compte et pas la peur. Comme un départ, un nouveau monde, pour toi c'est la victoire. Comme la force qu'il t'a fallu pour tout donner, pour y croire. Si c'est fou, va jusqu'au bout, lance plus fort, roule plus vite. C'est avec ta vie que tu joues. Jusqu'au bout, lance plus fort, coule plus vite, c'est avec ta vie.